Guerre et paix. Première partie, chapitre 3, scène 11. L'empereur séjourna le lendemain à Wichau. Son premier médecin, Villiers, ayant été appelé par lui plusieurs fois, la nouvelle d'une indisposition de l'empereur s'était répandue dans le quartier général, et dans son entourage intime, on disait qu'il n'avait ni appétit ni sommeil. On attribuait cet état à la violente impression qu'avait produite sur son âme sensible la vue des morts et des blessés. Le 17, de grand matin, un officier français, protégé par le drapeau parlementaire et demandant une audience à l'empereur lui-même, fut amené des avant-postes. Cet officier était Savary. L'empereur venait de s'endormir. Savary dut attendre. À midi, il fut introduit et une heure après, il repartit avec le prince Dolgorukov. Il avait, disait-on, mission de proposer à l'empereur Alexandre une entrevue avec Napoléon. À la grande joie de toute l'armée, cette entrevue fut refusée, et le prince Dolgorukov, le vainqueur de Wichau, fut envoyé avec Savary pour entrer en pourparlers avec Napoléon, dans le cas où, contre toute attente, ces pourparlers auraient la paix pour objet. Dolgorukov, de retour le même soir, resta longtemps en tête-à-tête avec l'empereur. Le 18 et le 19 novembre, les troupes firent encore deux étapes, pendant que les avant-postes ennemis ne cessaient de se replier, après avoir échangé quelques coups de fusil avec les nôtres. Dans l'après-midi du 19, un mouvement inaccoutumé d'allées et venues eut lieu dans les hautes sphères de l'armée, et se continua jusqu'au lendemain matin, 20 novembre, date de la mémorable bataille d'Austerlitz. Jusqu'à l'après-midi du 19, l'agitation inusitée, les conversations animées, les courses des aides de camp n'avaient pas dépassé les limites du quartier général des empereurs, mais elles ne tardèrent pas à gagner l'état-major de Kutuzov, et bientôt après, les états-majors des chefs de division. Dans la soirée, les ordres portés par les aides de camp avaient mis en mouvement toutes les parties de l'armée. Et pendant la nuit du 19 au 20, cette énorme masse de 80 000 hommes se souleva en bloc, s'ébranla et se mit en marche avec un sourd roulement. Le mouvement, concentré le matin dans le quartier général des empereurs, en se répandant de proche en proche, avait atteint et tiré de leur immobilité jusqu'au dernier ressort de cette immense machine militaire, comparable au mécanisme si compliqué d'une grande horloge. L'impulsion, une fois donnée, nul ne saurait plus l'arrêter. La grande roue motrice, en accélérant rapidement sa rotation, entraîne à sa suite toutes les autres. Lancées à fond de train, sans avoir idée du but à atteindre, les roues s'engrènent, les essieux crient, les poids gémissent, les figures défilent, et les aiguilles, se mouvant lentement, marque l'heure. Résultat final obtenu par la même impulsion donnée à ces milliers d'engrenages qui semblaient destinés à ne jamais sortir de leur immobilité. C'est ainsi que les désirs, les humiliations, les souffrances, les élans d'orgueil, de terreur, d'enthousiasme, la somme entière de ces sensations éprouvées par 160 000 Russes et Français, eurent comme résultat final, marqué par l'aiguille sur le cadran de l'histoire de l'humanité, la grande bataille d'Austerlitz, la bataille des trois empereurs. Le prince André était de service ce jour-là et n'avait pas quitté le général en chef Kutuzov, qui, arrivé à 6 heures du soir au quartier général des deux empereurs après avoir eu une courte audience de Sa Majesté, se rendit chez le maréchal de la cour, comte Tolstoï. Bolkonski, ayant remarqué l'air contrarié et mécontent de Kutuzov, en profita pour entrer chez Dolgorukov et lui demander les détails sur ce qui se passait. Il avait cru s'apercevoir également qu'on en voulait à son chef au quartier général et qu'on affectait avec lui le ton de ceux qui savent quelque chose que les autres ignorent.
« Bonjour, mon cher, »
dit Dolgorukov, qui prenait le thé avec Bilibine.
« La fête est pour demain. » Que fait votre vieux? Il est de mauvaise humeur? Je ne dirais pas qu'il soit de mauvaise humeur, mais il aurait voulu, je crois, qu'on l'eût entendu. Comment donc? Mais on l'a écouté au conseil de guerre, et on l'écoutera toujours lorsqu'il parlera sensément. Mais traîner en longueur et toujours attendre, lorsque Bonaparte a visiblement peur de la bataille, c'est impossible. Mais vous l'avez vu, Bonaparte? Quelle impression vous a-t-il faite? Oui, je l'ai vu, et je demeure convaincu qu'il redoute terriblement cette bataille.
Répéta Dolgorukov, enchanté de la conclusion qu'il avait tirée de sa visite à Napoléon.
S'il ne la redoutait pas, pourquoi aurait-il demandé cette entrevue, entamée des pourparlers? Pourquoi se serait-il replié lorsque cette retraite est tout à l'opposé de sa tactique habituelle? Croyez-moi, il a peur, son heure est venue, je puis vous l'assurer. Mais comment est-il?
Demanda le prince André.
C'est un homme en redingote grise, très désireux de m'entendre l'appeler « Votre Majesté », mais je ne l'ai honoré d'aucun titre, à son grand chagrin. Voilà quel homme c'est, rien de plus. Et malgré le profond respect que je porte au vieux Kutuzov, nous serions dans une jolie situation si nous continuions à attendre l'inconnu et à lui donner ainsi la chance de s'en aller ou de nous tromper, tandis qu'à présent, nous sommes sûrs de le prendre. Il ne faut pas oublier le principe de Souvarov, qu'il vaut mieux attaquer que de se laisser attaquer. L'ardeur des jeunes gens à la guerre est, croyez-moi, un indicateur plus sûr que toute l'expérience des vieux tacticiens. Mais quelle est donc sa position? Je suis allé aujourd'hui aux avant-postes, et il est impossible de découvrir où se trouve le gros de ses forces.
Reprit le prince André, qui brûlait d'envie d'exposer au prince Dolgorukov son plan d'attaque particulier.
Ceci est parfaitement indifférent. Tous les cas sont prévus. S'il est à Brune...
Repartit Dolgorukov en se levant pour déployer une carte sur la table et expliquer à sa façon le projet d'attaque de Weyrother, qui consistait en un mouvement de flanc. Le prince André fit des objections pour prouver que son plan valait celui de Weyrother, qui n'avait pour lui que la bonne foi d'avoir été approuvé. Pendant que le prince André faisait ressortir les côtés faibles de ce dernier et les avantages du sien, le prince Dolgorukov avait cessé de l'écouter et jetait des regards distraits, tour à tour, sur la carte et sur lui.
« Il y aura un conseil de guerre ce soir chez Kutuzov, et vous pourrez exposer vos objections, »
dit Dolgorukov.
« Et je le ferai certainement, »
reprit le prince André.
« De quoi vous préoccupez-vous, messieurs ?»
dit avec un sourire railleur Bilibin, qui, après les avoir écoutés en silence, se préparait à les plaisanter.
« Qu'il y ait une victoire ou une défaite demain, l'honneur de l'armée russe sera sauf, car, à l'exception de notre Kutuzov, il n'y a pas un seul russe parmi les chefs des différentes divisions. Voyez plutôt Herr General Wimpfen, le comte de Langeron, le prince de Liechtenstein, le prince de Hohenlohe, et enfin Prusch, et ainsi de suite, comme tous les noms polonais. Taisez-vous, mauvaise langue,
dit Dolgorukov.
Vous vous trompez, il y a deux Russes, Miloradovitch et Dokhturov. Il y en a même un troisième, Arakcheyev, mais il n'a pas les nerfs solides. Je vais rejoindre mon chef,
dit le prince André.
Bonne chance, messieurs.
Et il sortit en leur serrant la main à tous les deux. Pendant le trajet, le prince André ne put s'empêcher de demander à Kutuzov, qui était assis en silence à ses côtés, ce qu'il pensait de la bataille du lendemain. Celui-ci, avec un air profondément sérieux, lui répondit au bout d'une seconde.
« Je pense qu'elle sera perdue, et j'ai prié le comte Tolstoï de transmettre mon opinion à l'empereur. Eh bien, que croyez-vous qu'il m'ait répondu ? Eh, mon cher général, je me mêle du riz et des côtelettes. Mêlez-vous des affaires de la guerre. Oui, mon cher, voilà ce qu'ils m'ont répondu. »